Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec le talentueux, le remarquable, l'invincible, le roux Julien Bénesson.
Salut Rudy.
Donc, première actualité du moment, puisque tu n'as aucune actualité, Julien.
Ouais.
En ce moment se déroulent les CrossFit Games. Donc, en gros, c'est un peu comme les championnats du monde de CrossFit qu'on peut suivre chaque année. Donc, on retrouve les meilleurs mondiaux du CrossFit. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu, on a pu voir que cette année, les épreuves étaient un peu plus orientées cardio, du moins les premières épreuves. On a pu voir, je crois que c'est aujourd'hui. C'est bon, quand je sais ce que je vais mettre le podcast. Première épreuve, c'était donc 25 mètres de natation, enchaîné avec 3 muscle-up, et enchaîné avec 25 mètres de natation, 10 voies sur ce circuit-là. Donc, autant dire que c'était vachement endurance. Alors qu'auparavant, qu'il y a plus les années passent, plus les épreuves finales deviennent axées sur l'endurance. Donc à voir les autres épreuves à venir. Mais donc on constate que depuis l'arrivée de Reebok quand même dans le circuit du CrossFit, on entend de plus en plus parler du CrossFit. Et donc je trouvais ça pas mal de voir des super humains en quelque sorte. Donc ce que j'aime bien d'ailleurs avec le CrossFit, c'est ce que je disais à Julien tout à l'heure, c'est qu'on n'essaye pas de nous faire croire que les mecs deviennent comme ça grâce au CrossFit. On peut voir là, justement là, avec la liste des qualifiés, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, qu'en fait la plupart bien ont fait un tas de sports avant, ont été champions dans un sport, et en fait arrivent déjà avec un bagage physique assez énorme, et qu'après en fait c'est un peu plus facile pour eux d'arriver à exceller entre guillemets dans plein d'activités différentes, comme donc dans le CrossFit. Donc j'aime bien cette franchise qu'est le CrossFit comparé à d'autres méthodes d'entraînement qui n'ont pas cette franchise. Donc voilà, donc les CrossFit Games sont à suivre en direct. Donc je donne le petit lien de Philippe, donc alias El Sabre, qui avait fait un podcast avec nous spécial CrossFit. Donc sur Facebook, vous tapez El Sabre et directement il met le lien pour suivre en live, donc en direct sur Internet les épreuves. Donc c'est toujours sympa à voir. Et moi je trouve ça sympa. Julien, est-ce que tu es prêt à faire du CrossFit?
Ah bah pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Je pense, Rudy, que c'est important quand même de parler d'une deuxième actualité, si t'as terminé sur le CrossFit.
Je crois que je vais dire une merde.
Non, non. C'est bon pour le CrossFit ou tu voulais
Ouais,
en parler?
c'est bon pour le CrossFit.
Bon, il faut quand même savoir que Rudy s'est mis au
Je
vélo,
savais que t'allais dire une merde.
il s'est mis au vélo, et donc il a décidé de lâcher la muscu, puisqu'il m'a expliqué tout à l'heure,
Oh
avant de
putain.
passer à l'antenne, que le vélo musclait les cuisses.
Oh
Et
putain,
c'est
que...
comme ça que Florian Rousseau s'était fait les cuisses et qu'il allait abandonner la muscu, n'est-ce pas Rudy?
Non, j'ai jamais dit que j'allais abandonner la muscu. J'ai juste dit...
T'étais énorme après avoir fait du vélo.
Parce que je fais... Pour la petite info, je fais du vélo, je fais que des côtes en fait en fractionné. Je fais pas des 50 km, ça me plaît pas trop. Et donc je fais que des côtes en fractionné. Donc je monte ma côte, je redescends, je prends 2-3 minutes et puis je recommence à fond. Et j'ai dit à Julien justement... En faisant cet effort-là, en fait, j'avais les quadriceps beaucoup plus gonflés qu'après une séance de cuisses habituelle. Et donc, j'allais prendre du quadriceps près du genou. Et
Ah
Monsieur Julien n'est pas convaincu.
ouais. Non, mais bon, c'est je suis un peu jaloux, je sais que tu vas me dépasser. C'est pour ça.
il est bête, non? D'ailleurs, Julien, comment se passe ton entraînement? Il paraît que t'es resté écrasé de lever couché.
Non, j'ai survécu, heureusement, parce que deux gros balèzes m'ont retiré
La barre à vide.
de la cage thoracique. Donc là, je suis en rééducation, en fait, j'ai eu les côtes fracturées.
Ah, ça m'étonne pas.
Donc là, je fais le podcast depuis l'hôpital.
Depuis ton lit, quoi.
Exactement.
Comme d'habitude. Donc, sans rire, donc, deuxième actu. Donc, je cherche toujours le slogan définitif pour Super Physique. Donc, j'ai eu pas mal d'idées de votre part. J'en ai reçu au moins une centaine. J'arrive pas encore à trouver le slogan définitif qui arriverait à véhiculer les valeurs de super physique tout en étant un peu clinquant. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Pour l'instant, j'aime bien les mots où il y a start, legend, continue, des trucs dans le style en fait qui montrent le progrès, le début, la persévérance, le résultat, l'avenir.
Moi, je propose Take Your Bike, prenez votre vélo.
Ah oh, putain.
Le nouveau slogan super physique, by Rudy.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées de slogans avec les mots ou dans l'état d'esprit que je souhaite. Donc voilà. Donc vous pouvez l'écrire sur le forum ou sur Facebook ou où vous voulez, du moment que c'est vers moi. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Julien ?
Non, je dis très bien, merci, merci Rudy.
Arrête de faire du Facebook, Julien.
Ah non, je fais pas de Facebook, je reçois un mail.
Alors, première question pour toi d'ailleurs. Dans ton livre Nutrition de la force, tu parles de consommer 1 à 2 fruits par jour lors d'un régime cétogène pour le glycogène hépatique. 1. Existe-t-il des études plus précises concernant le choix des fruits ? 2. Quid de la quantité de fruits ? 3. Est-ce judicieux d'en consommer aussi après une séance de cardio le matin à jeun ? Ou cela ne risque-t-il pas de réduire de beaucoup les effets de perte de graisse ?
Alors, première question, existe-t-il des études sur le choix des fruits ? Non. Ce qu'on s'attache surtout à regarder, c'est la quantité de glucides. Donc, quand je parle de deux fruits, je parle de deux fruits qu'on consomme typiquement en France. Donc, ça va être pomme, banane, orange, voilà, ce genre de fruits. Si on prend évidemment des fraises ou des myrtilles ou des baies, qui sont des fruits qui contiennent très peu de sucre, évidemment, il en faudra pas que deux pour... arriver à avoir un apport de fructose qui soit utile. Donc voilà, ces deux fruits, quels qu'ils soient, en fait, ça prend une grande importance. Et puis, si c'est du melon, bah, je sais pas, ça sera les deux tiers d'une moitié de melon. Si c'est une pastèque, et bah, tu coupes ta pastèque en petits morceaux. Et puis.
Si c'est des framboises.
Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas très grave déjà si on n'est pas exactement à pile deux fruits. Donc effectivement.
Si je mange 50 framboises, est-ce que c'est bon ?
Si tu manges 50 framboises, oui, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait peut-être même pas un fruit, je pense. Donc voilà, en gros, donc n'importe quel fruit classique. C'était quoi la deuxième partie de la question, Rudy ?
Est-ce judicieux d'en consommer aussi après une séance de cardio le matin à jeun, ou cela ne risque-t-il pas de réduire de beaucoup les effets de perte de graisse ?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va pas gêner la perte de graisse. Il y a quand même dans le bouquin, ça on l'a répété 1500 fois, j'ai un graphique qui illustre ça, page 17, si mes souvenirs sont bons, dans Nutrition de la force, comment marche la perte de graisse. C'est un déséquilibre entre les apports et les dépenses. Donc, qu'on fasse son cardio le matin, le soir, la nuit, et qu'on mange des pommes à 2h ou à 4h, ça changera pas grand-chose au final. Si on veut perdre du gras, le cardio, pour la plupart des gens, c'est pas non plus quelque chose qu'il est utile de faire dès le début.
Comme je l'explique dans mon livre, dans mon e-book, Rudy Koya, mais c'est vrai pour sécher.
Ah bon, en plus tu l'expliques, donc très bien.
Ah, tu te souviens même pas de mon e-book.
Là, tu me l'as pas offert le deuxième.
Ah si, je te l'ai offert.
Tu m'as offert le premier.
Non, je te l'ai offert le deuxième, tu m'as même fait un témoignage.
On va se tirer les chignons, hein.
Tu m'as même fait un témoignage, espèce de roue.
Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Ah bah oui, c'est vrai, exact.
Ah le sagouin, moi je connaissais tout par cœur.
Ça m'a tellement marqué.
C'est une honte.
Donc effectivement, il y a l'ebook de Rudy qui en parle aussi. Donc, ne faites pas de cardio si vous voulez perdre du gras. Enfin, en tout cas, pour la plupart des gens, ça sert à rien. C'est un bon moyen de perdre du muscle.
Sauf si c'est du vélo.
Sauf si c'est du vélo, bien sûr, puisque là, ça vous fait gonfler les cuisses. Vous allez avoir des grosses cuisses. Et puis, il y aura un autre problème aussi du cardio. C'est que même si ça ne veut pas forcément perdre beaucoup de muscle, ça fatigue. Quand on est au régime, déjà, on est fatigué. Donc, pourquoi aller rajouter du cardio ? Il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc, autant gérer l'alimentation dans un premier temps et dormir le matin plutôt que d'aller faire cardio le matin. Donc voilà qui répond à la deuxième partie de la question.
C'est bien, Julien. Merci.
Je t'en prie.
Alors, entraînement. Travailler les bras 3 fois par semaine. Est-ce une bonne technique pour prendre du volume ? Donc, pour faire assez rapide, dans les programmes super donc sur le site, que j'avais fait donc en général pour attraper un point faible, je conseille de faire un point faible 2 fois par semaine. Ce qui me semble déjà être un maximum pour bien progresser et ne pas se blesser. Pour la petite histoire, donc personnelle, faire un muscle 2 fois par semaine ne m'a jamais réussi très longtemps. C'est comme ça que je me suis fait une petite déchirure au biceps et au triceps, en faisant donc deux fois à fond les bras, comme j'essaie de les rattraper à un moment. Donc travailler ses bras trois fois par semaine, pour moi, est une mauvaise technique, parce que cela implique, en plus, de négliger fortement les autres muscles, ce qu'on va déjà faire à moindre... un peu moins que dans trois fois par semaine, mais déjà, en faisant les bras deux fois par semaine, on va être obligé de réduire un peu l'entraînement des pectoraux, du dos, des épaules, pour que on puisse bien récupérer et que ça travaille moins les bras, que ça les fatigue moins. Donc, comme vous le savez, quand on fait des développés couchés ou des tractions, cela va travailler aussi les bras, donc triceps, biceps. Et quand on cherche à rattraper un point fort, qui a un point faible, on fait justement, on réduit le travail annexe pour se concentrer sur les exercices qui travaillent plus précisément ses muscles. Donc je pense que faire les bras trois fois par semaine, c'est trop. Du moins, les faire trois fois pour progresser. Alors, il peut y avoir une troisième séance qu'on dit de récup, par exemple en série de 30 avec 8 kilos par bras, qui sert pour moi, de mon avis personnel, à rien. Non mais c'est vrai, ça sert à rien. Donc je pense que deux fois par semaine, que ce soit pour les bras, pour n'importe quel autre muscle, c'est déjà largement assez, à condition, donc, comme je le disais, d'adapter son programme à la baisse sur les autres muscles pour pouvoir mieux progresser et mieux récupérer sur le point faible. Mais donc, c'est une mauvaise technique qui risque de vous blesser assez rapidement, ou alors de choper une tendinite ou de vous déchirer un muscle. En tout cas, je ne vous le conseille pas. Julien !
Ouais ?
Est-ce que tu es avec moi ? On t'entend au clavier, ce faisait ça, quoi.
Ah non, c'est Akuma, il a...
Julien, il y a une suite sur la question, sur l'arnica qu'on a eu la semaine dernière. Donc en fait, la question c'est, on lui avait loué les vertus anti-blessures et réparatrices des gélules homéopathiques prises régulièrement. Qu'en est-il ?
Je suis bien embêté. Comment dire ? Si on en croit la science et la médecine moderne, il y a eu des études qui ont été faites sur l'homéopathie en double aveugle, et puis une étude célèbre qui était une méta-analyse, il me semble, dans le JAMA, qui est une grande revue médicale, et qui avait conclu que l'homéopathie n'était pas un remède avec une efficacité supérieure au placebo. Donc c'est certes efficace, puisque le placebo est quelque chose d'efficace, mais ce n'est pas supérieur au placebo. Donc c'est pas vraiment la première chose vers laquelle je me tournerai. Vois-tu ?
Très bien, donc, Julien, de toute façon...
Par contre, c'est pas la même chose des gels à base d'arnica ou de d'autres choses à base d'arnica. Hein. Le concept de l'homéopathie, c'est qu'on dilue une substance de manière infinitésimale et c'est censé agir d'une manière qu'on ne sait pas vraiment, d'ailleurs. Et ça explique peut-être pourquoi est-ce que c'est pas plus efficace que le placebo. Voilà.
Merci.
Je t'en prie.
Alors, dans le podcast pareil de la semaine dernière, donc c'est pour ça que j'ai pris cette question, vous parliez de faire quelques coupures dans nos entraînements. Pourrions-nous imaginer un planning au mois, 3 semaines d'entraînement et 1 semaine de repos, toujours dans le même cycle? Donc c'est une bonne question parce que justement, si on regarde la plupart des préparateurs physiques professionnels, en général, les macro-cycles, ça dépend suivant les auteurs, mais en général, il y a toujours une baisse du volume et de l'intensité au bout de quelques semaines pour permettre une récupération active. Donc je me souviens, donc par exemple, pour l'exemple, donc Jean-Pierre Higuard, l'un des préparateurs physiques les plus connus, quand il préparait le lanceur de poids Werner Gunther, qui avait été champion du monde, je crois, mais en fait, il faisait 3 semaines d'intensité et de volume croissant, et la 4e semaine, c'était une semaine de récupération active, donc pas de repos complet, où on diminuait drastiquement le volume et l'intensité pour pouvoir enchaîner sur le cycle suivant. Donc pareil, si on prend le livre de Marc Vouillot, La force athlétique, donc vous avez l'interview sur le site, pareil, j'ai plus l'histoire en tête, mais je crois que c'est toutes les 4 semaines, pareil, la 5e semaine, il y a une baisse de l'intensité et du volume pour avoir un repos relatif. Donc après, pour bénéficier des effets dont on a parlé dans le podcast précédent, à savoir une resensibilisation des muscles qui progresserait plus vite à la reprise, qui deviendrait plus gros qu'avant. Je pense qu'une semaine de repos après 3 semaines d'entraînement, c'est trop peu et qu'il n'y aura pas cet effet-là. Je pense qu'il faut que le repos soit beaucoup plus long pour avoir cette sensibilisation accentuée. Et donc, on en revient au même problème, c'est vachement dur de s'arrêter de s'entraîner aussi longtemps. Et surtout qu'il faut avoir le mental après pour revenir et se dire que ça va être mieux. Sachant qu'en général, à titre d'exemple encore personnel, si je m'arrête 2 semaines d'entraînement, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais je reviens vite à 90% de mes perfs, mais les 10% restants d'avant, faut que je les revienne comme si je les avais jamais eus.
Là, tu veux dire qu'au vélo, t'as progressé vite, là?
Oh, là, n'importe quoi. Il bousille mon raisonnement. Donc, dans l'idée, pour reprendre, 3 semaines d'entraînement et 1 semaine de repos relatif me semble être une bonne idée. Si on arrive à un certain niveau, donc si on en est au début, ou ça monte bien, etc., et qu'il n'y a pas vraiment de phase de stagnation, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire cette semaine de repos relatif. Par contre, si on arrive à un niveau assez élevé, je pense que ça peut être intéressant de le faire. D'ailleurs, pour Romain qui m'écoute, et donc dont on a parlé avant, Romain, c'est un peu ce qu'il fait, donc de la team Superpower, qui va faire la Coupe de l'Union Européenne du 13 et 14 septembre à Blanquefort, donc en France, qui fait des périodes de repos relatives un peu plus longues, du style 4-5 semaines, après avoir fini son vrai cycle de préparation pour les compétitions. Donc par exemple, là on est là, il reste 7 semaines, là pendant 4-5 semaines, donc juste après le championnat du monde, sans matériel, il a fait 4 à 5 semaines de repos relatif, donc sur des mouvements qui étaient un peu différents, entre guillemets, pas si différents que ça, mais qui étaient un peu plus durs, donc où il mettait moins lourd, et où il faisait un peu plus de répétitions pour récupérer relativement, et là maintenant il est en train de préparation dure, donc et après il va refaire du repos relatif comme avant. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne idée quand on atteint un certain niveau et qu'on a du mal à récupérer. Après, en dehors de ça, je suis pas sûr que ce soit très utile. Donc ça me permet d'enchaîner en plus sur la prochaine question. Donc c'est beaucoup de culturistes professionnels sont passés par le powerlifting à haut niveau. D'ailleurs, toi-même, donc moi, j'ai jamais été à haut niveau, mais c'est marrant. Me semble-t-il, tu as fait du powerlifting aussi. Crois-tu que le power soit une case nécessaire? Si pas à notre avantage, à une pratique axée culturisme. Non, j'en pense pas. Comme je l'ai déjà souvent dit, ce qui est important, si le but est de prendre du muscle, c'est de s'entraîner pour prendre du muscle, c'est-à-dire de progresser sur le nombre de répétitions, donc la plage de nombre de répétitions qu'il faut pour prendre du muscle. Si on passe par un entraînement type power, alors après, c'est sûr que le power fait correctement, c'est-à-dire qu'il y a une bonne technique, apprendre à placer son dos sous le terre, apprendre au squat à bien fixer son dos, à être bien gainé, à pas défixer, et au coucher pareil, à fixer ses épaules, à être stable, etc. C'est sûr que ce sont des qualités qui vont servir dans la pratique axée prise de muscle, donc culturisme entre guillemets. C'est ce que je disais justement dans un article dans la semaine, c'est qu'avant de vouloir tricher et que ce soit efficace, il faut d'abord apprendre les bases, apprendre correctement ses mouvements, et donc c'est dans ce sens-là que le power peut être utile pour ensuite mieux se développer musculairement. Mais à part ça, non, prendre de la force pour prendre de la force, en passant pour le powerlifting, ne va pas amener plus de muscles ensuite. Rapidement, je fais 5-5 à 100 au coucher, je passe à 5-5 à 120, en restant en série de 3 à 6 répétitions, donc dans une plage de répétition type force, je vais forcément prendre un peu de pec, mais majoritairement de la force. Par contre, si en même temps je passe de 10 à 90 à 10 à 110 en me concentrant sur des séries de 10, 12 répétitions, qui est entre 8 et 12, là je vais prendre plus de pec et donc moins de force au final. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question, Julien?
Très bien.
Est-ce que tu vas faire du powerlifting?
Bah oui, mais d'abord faut que je m'achète un vélo. Je vais d'abord me faire les cuisses sur le vélo et ensuite je passerai au power.
Là, t'es jaloux, putain.
Là, je vais exploser.
Ah, c'est roux. je ferai une photo de mes cuisses après le vélo et tu verras.
Et tu feras une avant et une après pour qu'on voit la différence.
Non, avant ça me plaît pas, mais après ça me plaît bien. et franchement, ça me fait des veines et tout, putain, c'est vraiment.
Ah ouais, mais ça. Je trouve même, il paraît aussi que ton salaire a doublé depuis que tu faisais du vélo et Ton appartement aussi est devenu plus grand.
Et j'avais pris 2 cm de moi.
Bah oui, parce que...
Parce que le travail du bas du corps fait prendre du haut du corps.
Bah, pour tenir le guidon, faut quand même serrer. Donc du coup, tu sollicites vachement les bras. Hein.
Bah oui, ouais, c'est sûr. Hein. Oh, putain, ouais. Franchement, ah, le jaloux.
Non, mais quand même, ce que je vois, c'est que toutes ces années sur Super Physique à réfléchir sur des théories, des trucs à la con, alors qu'il suffisait d'acheter un vélo. Franchement, écoute, moi je dis, il était temps, quoi.
Oh, putain.
Bon, allez, la suite, là.
Alors, dernière question. Quels sont les dangers des ondes des portables et Wi-Fi? Comment s'en prémunir?
C'est une question pour Rudy Koya.
Non, c'est pas pour moi. Moi, tout est en Wi-Fi.
Alors, c'est très sujet à controverse, parce que pendant... Enfin, moi, je me rappelle qu'il y a, je sais pas, 10 ans ou quelque chose comme ça, ou même 5 ans d'ailleurs, on prenait un peu les gens qui se plaignaient de sensibilité aux ondes, un petit peu de gens bizarres, un peu, c'était pas très crédible. Et en fait, il y a eu des études, même faites par des équipes françaises d'ailleurs, assez contrôlées, sur des animaux, mais des études quand même, qui ont bien montré que les ondes avaient un effet sur le comportement, et en particulier qu'elles influençaient le sommeil et le métabolisme énergétique. À savoir que les animaux avaient tendance à manger plus et à prendre un peu plus de poids quand ils étaient soumis à des ondes que les autres. Donc pareil, chez l'être humain, on a pas mal quand même d'observations qui laissent penser qu'avoir son téléphone près de sa tête quand on dort, c'est une grosse connerie, donc il faudrait mieux éviter. Il y a même eu certaines études un peu...
Oh merde, je vais mourir alors.
Bah, parce que tu gardes ton téléphone à côté de ta tête toute la nuit.
C'est mon réveil.
Bah, t'es pas obligé de le mettre à côté de ta tête, ton réveil.
Non, mais pas loin.
Bah, pas loin, entre, il y a des jeunes qui vraiment gardent leur téléphone sur le lit, quoi, parce qu'ils
attendent. Non, pas sur le lit, mais.
Texto, ça, il faut éviter, quoi. Après, la table de chevet juste à côté me semble aussi un peu proche.
Ouais, donc, mais c'est... sinon, le réveil sonne, et j'ai oublié de me lever.
Bah, justement.
Moi, je veux pouvoir appuyer dessus, et puis,
Je dois dire que j'utilise aussi mon téléphone comme réveil. Et il est effectivement assez loin de moi, et du coup, je suis obligé de me lever pour aller l'éteindre.
Oh putain, le salaud, merde.
Bah ouais, mais comme ça, t'es réveillé. En tout cas, voilà, mais sinon, on peut aussi éteindre son téléphone la nuit. Hein. Les gens qui ont un réveil classique, ça sert à rien d'essayer d'allumer son téléphone pendant la nuit, sauf s'il y a une raison particulière, mais bon, vaut mieux pas laisser près toute soi. Et ensuite, les autres ondes qu'il y a en permanence chez nous, que ce soit le Wi-Fi, les ondes télé, les ondes diverses, quel est le réel impact sur la santé de l'être humain? Bah, actuellement, on ne sait pas trop. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui se plaignent et qui parlent de choses, mais voilà, on ne sait pas trop. Donc, il faut espérer qu'on n'est pas électrosensible, parce que les gens qui ont ce problème de santé, s'il est avéré que ce soit bien les ondes qui le provoquent, c'est quand même pas drôle, parce que ça coupe quand même un peu de la civilisation. C'est quand même pas évident pour travailler ou pour vivre. Donc voilà, moi après, je pense qu'il faut être juste un petit peu, si possible, de limiter l'utilisation abusive des ondes quand ça sert à rien. Par exemple, chez moi, j'ai Internet, je branche pas le Wi-Fi parce que je peux mettre un câble. Ça sert à rien d'aller mettre le Wi-Fi si on peut mettre un câble. À part rajouter des ondes dans la pièce. Donc voilà, on peut faire des petites choses au quotidien pour essayer de limiter l'effet de ces ondes qui sont pas non plus très 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 bien connues. Et personnellement, j'éviterais aussi d'habiter juste à côté d'une antenne relais. Donc voilà ce qu'on peut dire. On est encore un peu dans le balbutiement des connaissances rigoureuses.
Bon bah.
T'as endormi, Olivier?
Non, j'ai tout écouté.
Fais plus dormir.
Non, bah je dors pas, tu sais. Moi j'ai pas besoin de dormir. Hein.
T'es un surhomme.
C'est grâce au vélo. Depuis que je fais du vélo, je dors beaucoup moins.
Cool.
Donc juste pour une petite info, j'ai fait que 2 fois du vélo. Donc...
Ouais, mais bon. On sait très bien que le pouvoir du vélo, 2 fois ça suffit. Hein.
C'est tellement efficace.
Bah ouais.
Donc, je rappelle que vous... Donc, un avis pour les questions pour ce soir, mais je rappelle que vous pouvez poser vos questions donc sur le forum, exclusivement sur le forum, parce que vous êtes encore beaucoup à m'envoyer vos questions sur Facebook ou par email. Donc sur le forum, c'est la rubrique entraînement. Donc après, il y a un petit sujet qui s'appelle podcast, on peut pas le louper. Et donc vous mettez vos questions dessus. Et donc après, bah, avec Julien, on les sélectionne et donc on finira par répondre à tout le monde, de toute façon. Donc n'hésitez pas. Si on répond pas la semaine prochaine, bah, on y répondra 2 semaines après ou 3 semaines après. On finit par y répondre. Et donc, bah, sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.
Et bon vélo!